Dans La Grenouille Laura, l'une des premières fables écrites par La Fontaine, la moralité exprimée en vers est la suivante. La ruse la mieux ourdie peut nuire à son inventeur, et souvent la perfidie retourne à son auteur. Dans l'histoire de la reine Esther, Aman, le grand vizir et numéro 2 du royaume, est un personnage particulièrement ignoble qui a manigancé l'extermination de tous les juifs éparpillés dans l'Empire perse. Il a tout calculé, tout prévu, et même fait dresser la potence sur laquelle il va faire exécuter Mardochée, qui a toujours refusé de se courber les chines devant lui. Mais ce qu'il n'a pas envisagé du tout, est que le Dieu du ciel et de la terre va faire échouer son sinistre projet. Dans les coulisses, l'Éternel tire les ficelles qui vont non seulement contrecarrer les stratagèmes du grand vizir, mais retourner la situation contre lui. Nous sommes de grand matin, et Aman vient demander à l'empereur la permission de réaliser la première partie de son plan, faire pendre Mardochée. Mais justement, le souverain vient d'apprendre que ce dernier l'a sauvé d'un attentat contre sa vie et n'a pas encore été récompensé. L'empereur a donc une dette envers lui. Tout ça tombe plutôt très mal pour le grand vizir. Je continue à lire dans le chapitre 6 du livre d'Esther. Aman entra, et l'empereur lui demanda « Que faut-il faire pour un homme que l'empereur désire honorer ?» En son fort intérieur, Aman se dit « Quel homme l'empereur peut-il désirer honorer, sinon moi ?» Il répondit donc à l'empereur « Pour un homme que l'empereur désire honorer, que l'on apporte un manteau de l'empereur que l'empereur a déjà porté, que l'on amène un des chevaux de l'empereur qu'il y a monté, et que l'on pose sur la tête du cheval un diadème impérial, que l'on confie le manteau ainsi que le cheval à l'un des ministres de l'empereur, l'un des plus hauts dignitaires, et qu'on revêt du manteau l'homme que l'empereur désire honorer. Puis, qu'on le fasse monter sur le cheval et qu'on le conduise ainsi sur la place de la ville en proclamant devant lui « Voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qui désire honorer !» Esther, chapitre 6, les versets 6 à 9. Les sceptiques ont longtemps pensé que l'auteur s'est trompé en parlant d'un cheval muni d'un diadème. Et puis un jour, on a effectivement trouvé, sur des reliefs datant de l'époque assyrienne, donc avant l'Empire perse, des chevaux portant sur la tête un ornement à trois pointes en forme de couronne. Aman, le grand vizir, est immensément riche. Il n'a donc pas besoin d'argent. Ce qu'il désire plus que tout au monde est la vénération du peuple, mais cet orgueil monstrueux va le ruiner. L'esprit occupé par ses projets meurtriers, il saute un peu trop vite à la conclusion que tout honneur particulier du roi ne peut être que pour lui. Il fait alors la proposition la plus extravagante qu'il peut imaginer. Il semble même qu'être le numéro 2 de l'Empire ne lui suffit pas. Il vise le trône. Au moment voulu, il a peut-être l'intention d'éliminer Xerxès. C'est en effet dans un bain de sang que se terminent bon nombre de règnes au Moyen-Orient. En attendant, Aman veut habituer le peuple à le voir avec toutes les apparences de la royauté, ce qui inclut revêtir les vêtements d'apparat de l'empereur, car les porter est un signe de faveur exceptionnel. D'une manière générale, dans la pensée des gens du monde antique qui sont très superstitieux, porter les habits d'autrui, voire simplement les toucher, c'est déjà avoir part à son pouvoir ou à son honneur, comme par un phénomène d'osmose. C'est complètement fou, mais on trouve cette croyance dans une histoire d'un évangile. Je lis le passage. Elle avait entendu parler de Jésus, et dans la foule. Elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. » Marc, chapitre 5, les versets 27 et 28. Je continue le texte. « Alors l'empereur dit à Aman, « Dépêche-toi d'aller chercher le manteau et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardochée qui exerce des fonctions au palais. » « Ne mets rien de tout ce que tu as proposé. » Aman alla chercher le manteau et le cheval. Il revêtit Mardochée du manteau. Puis il le fit monter sur le cheval et le conduisit ainsi sur la grande place de la ville en proclamant devant lui « Voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer !» Esther, chapitre 6, les versets 10 et 11. Tel est prix qu'il croyait prendre. Ici, il ne s'agit pas d'une ironie du sort, mais une ironie de Dieu. Le roi n'a aucune idée de l'ironie de la situation dans laquelle il place son vizir, car il ignore l'inimitié entre Mardochée et Aman, et le fait que le décret est dirigé contre les Juifs, et donc aussi contre Mardochée. Tout ce que Xerxès sait est que l'homme qui lui a sauvé la vie occupe un emploi modeste aux portes du palais. Le piège, savamment monté par Aman, vient de lui exploser en pleine figure. Comme il nourrit une profonde haine envers Mardochée, qui l'a défié, le roi n'aurait pas dû lui demander quelque chose de plus honteux et détestable que de revêtir Mardochée des vêtements du roi, le faire monter sur ce cheval royalement paré, le conduire dans les rues et de la capitale et proclamer haut et fort qu'il est l'homme que l'empereur veut honorer. C'est pour le vizir le comble de l'humiliation et un exercice de pure mortification. Aman, qui voulait que Mardochée se courbe devant lui, est forcé d'inverser les rôles. Je continue. Ensuite, tandis que Mardochée retournait à ses fonctions au palais impérial, Aman rentra précipitamment chez lui, comme en deuil et en se couvrant le visage. Il raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis ce qui venait de lui arriver. Ses conseillers et sa femme lui dirent « Si ce Mardochée, devant qui tu as commencé à être humilié, est juif, tu ne pourras rien contre lui. Tu peux être certain que tu continueras à déchoir devant lui. » Esther, chapitre 6, les versets 12 et 13. Le texte est totalement silencieux sur les états d'âme de Mardochée qui, après ce défilé triomphal, retourne simplement à son poste de travail, comme si rien ne s'est passé. Tout porte à croire qu'il s'attend à une intervention de Dieu qui va venir en aide au peuple juif menacé d'extermination. Pour Aman, le retournement de situation est épouvantable. C'est le loin le pire jour de sa vie. Au lever du soleil, au moment où il a quitté son domicile, il était aux anges dans un état de joie indescriptible. Mais maintenant, le ciel vient presque littéralement de lui tomber sur la tête. Alors, portant le deuil, il rentre chez lui en toute hâte pour décharger son cœur avant d'être obligé d'aller au festin de la reine. Alors qu'il attend de sa femme et ses amis un réconfort, il trouve tout autre chose. Ces derniers, changeant comme la lune, font volte-face et lui prédisent le pire. L'extraordinaire honneur rendu à Mardochée leur a ouvert les yeux sur la valeur et la signification de son identité juive. Les Perses connaissent l'histoire d'Israël, et bien que ce peuple ait été exilé parmi eux, ils savent aussi que l'Éternel, leur Dieu, est puissant, et que quand il intervient en leur faveur, rien ni personne ne peut s'opposer à lui. C'est déjà ce qui était arrivé du temps de Nebuchadnezzar, puis, plus tard, de Daniel. À l'époque de l'empereur Darius, ses hauts dignitaires réussirent à le manipuler pour qu'il fasse jeter Daniel dans la fosse aux lions. Mais ce fut une idée désastreuse, car la conclusion de cet incident est: là-dessus, l'empereur ordonna de lui amener ses hommes qui avaient accusé Daniel, et il les fit jeter dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Ils n'avaient pas atteint le sol de la fosse que, déjà, les lions s'emparèrent d'eux et leur broyèrent les os. Daniel chapitre 6, verset 24. Dans l'histoire de la reine Esther, quand le plan machiavélique du grand vizir contre les Juifs, semblait fonctionner comme une montre suisse. Sa femme et ses amis lui avaient conseillé. « Il n'y a qu'à faire dresser une potence haute de 25 mètres, et demain matin, tu parleras à l'empereur pour qu'on y pende Mardochée. Puis tu pourras aller gaiement au festin en compagnie de l'empereur. » Esther, chapitre 5, verset 14. Il a donc attendu ce dîner avec la plus grande impatience, se vantant même d'être le seul invité avec l'empereur. Mais maintenant, son plan et son monde sont en train de s'écrouler. Aman est dans la plus grande affliction à l'écoute de ses proches prédisant sa fin. Il est encore en état de choc quand l'entretien est subitement interrompu. L'heure du destin vient de sonner. On entend des bruits de pas au dehors, ce sont les serviteurs du roi qui viennent chercher le grand vizir en toute hâte pour l'accompagner et l'escorter au festin d'Esther. Je finis de lire le chapitre 6. Ils étaient encore en train de s'entretenir avec lui quand survinrent les envoyés de l'empereur venus faire presser Aman de se rendre au festin préparé par Esther. Esther, chapitre 6, verset 14. On n'a plus le temps de faire ouf, tellement les événements se précipitent et nous bousculent. Ce pauvre Aman ne doit plus tellement avoir le cœur à vouloir faire la fête, mais il ne peut s'esquiver. Il sent bien qu'il a perdu pied, qu'il ne contrôle plus les événements. Mais il ne sait pas qu'il a été contrecarré et jugé par le Dieu du ciel. À mon avis, il doit quand même commencer à se douter que d'ici peu, ça risque d'être sa fête dans le mauvais sens du terme. Peut-être même se sent-il déjà un peu comme le condamné à qui on offre le dernier verre. Nous arrivons au chapitre 7 dans lequel les événements se précipitent de plus en plus vite. Ce nouvel acte commence dans le cinquième banquet de cette histoire. Les deux premiers furent donnés par l'empereur, le troisième par Vatsi, l'impératrice répudiée, et les deux suivants par Esther. Je commence à lire ce chapitre. L'empereur et Aman arrivèrent donc pour festoyer avec l'impératrice Esther. Ce deuxième jour, pendant qu'on buvait le vin, l'empereur demanda de nouveau à Esther « Dis-moi quelle est ta requête, impératrice Esther. Elle te sera accordée. Quelle est ta demande? Même si c'est la moitié de mon empire, tu l'obtiendras. » Esther, chapitre 7, les versets 1 et 2. Aman est mortifié par l'honneur qui a été accordé à Mardoché, mais quand même flatté par cette invitation chez la reine. S'il avait su que Esther est la fille adoptive de Mardoché, il aurait été terrifié tout au long de ce repas et aurait appréhendé à la mort la deuxième partie. Le moment où l'on mange les fruits accompagnés de liqueurs fortes et où on parle affaires. C'est la troisième fois que l'empereur demande à la reine ce qu'elle désire et qu'il lui promet d'avance que sa requête lui sera accordée. Sous sa couronne d'impératrice, Esther appréhende sans doute d'ouvrir son cœur au roi capricieux et imprévisible parce que Aman est son favori. Elle craint qu'il s'emporte. Mais, d'un autre côté, en l'espace de 24 heures, la situation a tellement changé qu'Esther se sent peut-être capable de formuler sa demande avec assurance. De toute façon, cette fois-ci, les dés sont jetés. Elle ne peut plus tergiverser. Je continue le texte. L'impératrice Esther répondit, « Si l'empereur veut m'accorder une faveur, si l'empereur le veut bien, que la vie sauve me soit accordée, c'est là ma requête. Que la vie sauve soit aussi accordée à mon peuple, telle est ma demande. En effet, moi et mon peuple, nous avons été livrés pour être massacrés, tués et exterminés. Si nous avions seulement été vendus comme esclaves ou servantes, j'aurais gardé le silence. Mais il s'agit du roi que notre mort appauvrira. Et voilà pourquoi je parle. » Esther, chapitre 7, les versets 3 à 4. Cette requête d'Esther a été introduite dans deux liturgies juives. Jusqu'à présent, et sur ordre de son père adoptif Mardoché, la reine a gardé secret son origine ethnique. Mais en s'identifiant au peuple, qui a par décret est voué à la mort, elle vient de révéler son identité juive. Elle a encore présente devant ses yeux la proclamation ordonnant l'anéantissement des Juifs. Elle sait que les lettres furent portées pour ordonner de massacrer, de tuer et d'exterminer les Juifs jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour, et de piller leurs biens. Esther chapitre 3 verset 13. Elle répète exactement ces mêmes trois verbes au roi. Massacrer, tuer est exterminée. Si elle demande sa vie avant celle de son peuple, ce n'est pas par égoïsme ou par crainte de la mort, mais afin de faire sur le roi une plus forte impression. En effet, elle pense lui importer davantage que le peuple juif tout entier. S'il n'agit pas, selon la loi des Mèdes et des Perses, il perdra sa reine et son honneur avec elle. Je continue. Et le roi Xerxès dit à Esther la reine, « Qui est-il, celui qui a eu l'audace de concevoir un tel dessein? Où est-il ? » Esther chapitre 7, verset 5. Littéralement. Et le roi Cyrus dit et dit à la reine Esther. Le désordre de la construction grammaticale révèle l'émotion du roi. Il tombe des nues et il est abasourdi. Il veut savoir qui a l'intention d'assassiner sa reine et son peuple. Jusqu'à présent, il ignorait que le décret de mise à mort qu'il a autorisé vise les Juifs. Comme tout despote qui se respecte, Xerxès a très peu d'égard pour la vie humaine. D'après le récit de sa campagne contre les Grecs, on constate que pour lui, la guerre est un jeu et la vie de ses soldats n'a aucune espèce d'importance. Remarquez que les guerres de sécession et de Corée étaient des boucheries rondement menées par des officiers au cœur de pierre, et que l'état-major français s'est conduit comme Xerxès avec les poilus durant la guerre de 14-18. On les a littéralement réduits à de la chair à canon, rien de moins. Et pendant le second conflit mondial, certains généraux alliés ont agi de même, cherchant avant tout leur propre gloire sur leur champ de bataille. Alors, ne soyons pas hypocrites en jetant la pierre aux souverains assyriens, babyloniens, perses ou grecs. Pour en revenir à Xerxès, il n'est pas difficile d'imaginer qu'il voit rouge. Il est furieux à l'idée que quelqu'un veut faire monter sa reine dans la charrette des condamnés. Quant à Aman, il est complètement dépassé par les événements. Le grand vizir ignorait que l'impératrice est juive. À cette nouvelle, il sent déjà son cou rétrécir. Il ne fait guère de doute que la terreur doit se lire sur son visage, car sans le savoir, il a marché sur les plates-bandes de l'empereur. Toucher à la reine, c'était s'attaquer au roi. Je continue. Esther répondit, « Le persécuteur, l'ennemi, c'est Aman, ce misérable !» Alors Aman fut épouvanté devant l'empereur et l'impératrice. Furieux, l'empereur laissa son vin, se leva et sortit dans le jardin du palais. Aman, voyant bien que dans l'esprit de l'empereur son malheur était décidé, resta là pour implorer l'impératrice Esther pour sa vie. Esther chapitre 7, les versets 6 et 7. Échauffé par le vin et la colère, le roi sort au grand air pour respirer. Il vient de faire le lien entre la demande d'Esther et le complot d'Aman. Il ne s'attendait pas à cette tournure des événements et se sent trahi par son grand vizir. En quittant le festin, il prononce implicitement la condamnation à mort d'Aman, qui en est tout à fait conscient. L'Éternel a dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront et maudirai ceux qui t'outrageront. » Genèse chapitre 12, verset 3. Cette promesse s'étend à tous ses descendants. Le grand vizir, qui se réjouissait à l'idée d'exterminer tout un peuple, hommes, femmes et enfants, se traîne maintenant à genoux devant l'impératrice, la suppliant d'épargner sa vie. C'est là, en effet, son seul espoir. Mais on ne saura jamais ce qu'Esther aurait répondu, car il se passe encore un quiproquo. Je continue le texte. L'empereur revint du jardin à la salle du festin au moment où Aman se laissait tomber sur le divan où Esther était allongée. Du coup, l'empereur s'écria « Veut-il encore faire violence à l'impératrice en ma présence, dans mon palais ?» À peine l'empereur eut-il prononcé la parole que l'on recouvrit le visage d'Aman. Esther chapitre 7, verset 8. Celui qui s'indignait de ce que Mardochée ne voulait pas s'incliner devant lui est maintenant prosterné devant la reine étendue sur sa couche. Probablement, étreignant ses pieds comme en suppliant. Mal lui en a pris, car son geste est interprété comme une provocation par Xerxès. Les rois perses sont hypersensibles concernant leurs femmes. Ils condamnent à mort tous ceux qui osent seulement les approcher. Aman devait être dans une grande détresse pour avoir commis pareille imprudence. Jusqu'à là, les gardes présents n'ont pas bougé. L'empereur prononce alors une sentence de mort qui n'est pas rapportée et le sort du grand vizir est scellé. Ni Esther, ni personne d'autre n'a le loisir d'expliquer quoi que ce soit, car une fois que le roi a parlé, les discussions sont terminées. On couvre le visage d'Aman, ce qui est l'usage envers tous ceux qui sont conduits au supplice. Le voile privant de lumière est l'image des ténèbres de la mort que va recevoir le condamné. Chez les Romains, le juge livre le coupable au bourreau en lui disant « Va, licteur, attache-lui les mains, voile-lui la tête et suspends-le à l'arbre de malheur. » Je finis le chapitre 7. Harbona, l'un des eunuques, dit alors devant l'empereur « Il y a justement cette potence que Aman a fait faire pour Mardoché, qui a parlé pour le bien de l'empereur. Elle se trouve dans la cour de Aman et elle a 25 mètres de hauteur. » L'empereur ordonna « Qu'on l'y pende. » On pendit donc Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Alors, la colère de l'empereur s'apaisa. Esther, chapitre 7, les versets 9 et 10. Harbona est l'un des 7 conseillers du roi. Esther, chapitre 1er, verset 10. Il enfonce le clou en informant le roi que Aman a dressé une potence pour exécuter Mardoché qui a sauvé le roi d'un attentat. De toute évidence, les serviteurs de l'empereur ne portent pas Aman dans leur cœur, ce qui se comprend au vu de son arrogance. Harbona, qui a sans doute eu à subir des outrages du grand vizir, saute donc sur cette occasion pour se venger. On trouve ces deux genres d'hommes, Aman et Mardoché, dans un passage du livre des psaumes, je le cite. « Attends-toi à l'Éternel et suis le chemin qu'il te recommande. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence, croître comme un cèdre vert et fleurissant. Mais il a passé, voici qu'il n'est plus. J'ai beau le chercher, il est introuvable. » Psaume 37, les versets 34 à 36. Pendant un temps, le méchant semble avoir le dessus, mais tôt ou tard vient l'heure où des règlements de compte. Il se trouve que devant Dieu, je suis tout aussi coupable que Aman, car j'ai la même nature que lui. L'occasion fait le larron. Donnez les circonstances appropriées, je suis capable du pire. Voilà pourquoi il fallait que le Christ meure sur la croix et porte sur lui ma pourriture et la vôtre. Quiconque place en lui sa confiance reçoit en son nom le pardon de toutes ses fautes, passées, présentes et même à venir.